écoutez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Que pensez-vous des mesures annoncées par François Hollande pour lutter contre le terrorisme? Prolongation et renforcement de l'état d'urgence, assignation à résidence, déchéance de la nationalité pour les binationaux ou encore la création de 8500 postes dans les forces de sécurité. Voilà quelques-unes des mesures annoncées lundi par le président français pour protéger le territoire français, renforcer la sécurité du pays. Et vos réactions également nous intéressent. Sur la décision de François Hollande d'intensifier les frappes en Syrie. Je vous rappelle que depuis dimanche, l'aviation française a largué une soixantaine de bombes sur Raqqa. Raqqa, c'est au nord de la Syrie. Cette ville est présentée comme le fief de l'organisation de l'État islamique. La riposte de la France en Syrie, 33 9 693 693 70. Et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission. Arsène, vous nous appelez de Paris. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Et vous êtes rassuré, vous, par les mesures annoncées par François Hollande?
Oui, absolument. Depuis deux jours, c'est comme je disais à l'antenne. Les mesures proposées par le président de la République sont vraiment à la hauteur, à savoir l'état d'urgence qui a été mis en place et le déploiement immédiat des forces de défense dans la capitale et les lieux stratégiques nous rassurent et nous donnent l'envie de sortir et de rester chez nous. Et la déchéance de la nationalité, je pense que ça va bien évidemment faire en peur à ceux qui auront le courage ou l'idée d'aller en Syrie pour affronter les Francs.
Vous croyez que c'est vraiment une mesure dissuasive, la déchéance de la nationalité pour les binationaux, rappelons-le?
Je pense que oui. C'est des mesures vraiment très très fortes par rapport à la situation actuelle. Et à savoir aussi la prolongation de l'état d'urgence qui doit être voté ce matin. Et je profite de l'occasion aussi de lancer un appel solennel aux républicains de voter massivement la prolongation de cet état d'urgence.
Et justement, vous parlez des républicains, donc de la classe politique française. L'unité nationale, finalement, n'aura pas duré longtemps. Comment avez-vous réagi lorsque une partie de la classe politique, les républicains, pour ne pas les citer, ont chahuté quand même le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur avant-hier à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça vous a choqué ou vous vous dites c'est tout à fait normal que la classe politique, que la politique reprenne ses droits?
Oui, ça m'a choqué. J'ai suivi le débat mardi à l'Assemblée. Je me suis dit, mais on est dans un... Le pays est en guerre. Je pense que voilà, l'esprit de l'unité nationale devait rester le plus longtemps possible. Et malheureusement, c'est qui n'a pas été lieu. Et je vois que j'ai suivi le discours de Bruno Le Maire ce matin, qui a essayé de rattraper un peu l'erreur faite mardi à l'Assemblée. Je pense que voilà, le Premier ministre va passer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. J'espère que cette erreur ne puisse pas être reproduite et que cette loi puisse être votée massivement afin que cet état puisse être prolongé à nouveau pour
trois mois comme jusqu'à la fin du mois de février, comme le souhaite effectivement le président François Hollande. Merci Arsène de nous avoir appelé. Bonjour Ado.
Bonjour Johan.
Est-ce que comme Arsène, vous êtes satisfait des mesures annoncées par François Hollande?
Alors, permettez-moi déjà, Johan, avant de répondre à votre question, de présenter mes condoléances aux familles des victimes, notamment de ces carnages, et de toutes les autres victimes de cette barbarie à travers le monde. Alors, pour revenir à votre question, Johan, alors, est-ce qu'il est satisfait de ces mesures? La réponse est sans aucun doute oui, parce que c'est des mesures qui vont dans le bon sens. Mais à mon sens, c'est que ces mesures auraient dû être prises beaucoup plus tôt.
Alors attendez, quand vous dites quelles mesures, vous dites les mesures vont dans le bon sens, lesquelles?
Alors, notamment les mesures de tous ceux qui contrôlent aux frontières, mais également le contrôle des personnes ou des individus qui ont été dans des zones de combat. l'assignation à résidence, notamment de ces individus à leur retour en France.
Mmh. Ou même, et en même temps, on voit bien que l'assignation à résidence ne fonctionne pas toujours. Certains ne la respectent pas, retournent en Syrie, reviennent. C'est en tout cas ce qui s'est passé en Belgique pour le cerveau présumé des attaques de vendredi soir à Paris. Donc, est-ce que c'est une bonne solution ou pas? On le verra évidemment avec le temps. Quand vous dites effectivement qu'il faut absolument un visa de retour pour les Français qui sont partis sur des terrains de guerre ou d'activités terroristes, là pour le coup, vous avez l'impression que François Hollande répond à un besoin.
Oui, mais ces besoins, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un besoin qui existe depuis fort longtemps, depuis notamment les attentats du mois de janvier. Elles auraient pu être prises, et aujourd'hui, qu'on les prenne, mais aussi qu'on les applique, puisque pour l'instant, on est au stade d'annonce, même si il y aura une accélération peut-être dans les jours à venir. Mais c'est déjà des mesures, pour moi, qui vont dans le bon sens et qui peuvent peut-être permettre d'éviter un certain nombre de choses qu'on a connues ces derniers temps à Paris et notamment à la Seine-Saint-Denis.
Et sur le front extérieur, François Hollande a raison de multiplier les frappes contre des centres d'entraînement, des casernes abritant des combattants de l'organisation islamique en Syrie. Il a raison de multiplier les frappes ou pas?
Mais tout à fait, il a entièrement raison et vous savez très bien que c'est pas un combat qui est mené seulement notamment en Syrie ou en Irak, c'est aussi un combat qui est mené en Afrique, notamment qui fait face à des islamistes de Boko Haram et notamment au Niger, et que la France intervienne au Mali, au Niger et également dans d'autres, sur d'autres fronts. Pour moi, ces frappes vont très bien, notamment dans le bon sens, mais également, c'est des choses qu'il faut faire pour pouvoir anéantir, notamment l'ennemi, on va dire.
Merci à vous. Bonne journée à dos à Paris. 33 9 693 693 70. Herbert, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue. Nous vous écoutons sur les annonces de François Hollande pour lutter contre le terrorisme et sur la situation en France depuis vendredi soir.
Oui, tout à fait. Alors, avant tout propos, je voudrais, comme l'ont fait les précédents auditeurs, présenter mes hommages aux familles des victimes, aux victimes, et souhaiter une bonne guérison à toutes ces personnes blessées qui s'accrochent, hélas, à la vie, et donc leur dire, leur témoigner tout le soutien de la nation française et que la République, la France, pourchassera ces sanguinaires et les châtiera. Donc, pour revenir aux mesures proposées par François Hollande, et notamment celles déjà engagées par le gouvernement depuis les attentats du 11 janvier dernier, bien sûr, bien évidemment, elles vont dans le bon sens. Naturellement, certains vous diront qu'elles ne sont pas, ils sont pas assez, nous ne sommes pas allés assez loin, en tout cas le gouvernement n'est pas allé assez loin, mais les résultats montrent leur efficacité. Je peux vous prendre par exemple le budget qui a été alloué au ministère de la Justice, la loi sur le renseignement, que bon nombre ont décrié et qu'on a bien vu qu'elle paraît tout à fait efficace et appropriée. Je peux vous citer aussi le PNR, c'est ce dispositif qui permettra notamment aux ressortissants qui souhaiteraient revenir sur, en tout cas rentrer en France ou alors retourner dans les pays de l'Union européenne, et bien d'être localisé, d'être signalé auprès des autorités, en tout cas quand ils font l'objet de fichiers S, par exemple.
Ouais, quand ils font l'objet de fichiers S, ils sont plus de 10 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 000 personnes, selon vous?
Ben, ils seront, comme l'a préconisé, le proposé François Hollande, il est question de leur poser des conditions de retour, c'est-à-dire leur signifier que s'ils souhaitent rentrer en France, eh bien ils seront mis sous la surveillance de la justice, et dans la mesure ou dans le cas où ils ne seraient pas d'accord, eh bien ils se retrouveront en infraction et donc poursuivis par la justice et alors incarcérés.
En tout cas, pour vous, c'est une bonne chose que l'état d'urgence soit prolongé?
Alors, c'est une bonne chose parce que ça donne notamment les moyens, on l'a bien vu avec les interpellations qui se sont ont eu lieu, donc notamment la nuit qui a précédé les attentats de vendredi. Mmh. Donc ça donne plus de moyens aux services de police faut intervenir à tout moment et à tout lieu.
Oui. Plusieurs centaines de perquisitions administratives depuis samedi, sans passer par l'autorité judiciaire. Hein. C'est ce qui permet justement, c'est ce que permet notamment l'état d'urgence. Merci à vous, Herbert, de nous avoir appelé. Selim, vous nous appelez d'Asnières, en région parisienne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous craignez que l'état d'urgence menace nos libertés?
Tout à fait. Trop de sécurité implique des libertés réduites. L'état d'urgence modifie dangereusement la nature de l'étendue de possibilités concernant la police et l'administration. L'état d'urgence ne permet pas un contrôle correct de l'appareil judiciaire. Et je crains, quant à moi, des dérives qui seront pratiquement appliquées à certaines populations. Et l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique m'inquiète.
Pourquoi ?
Quant à l'état d'urgence...
Pourquoi interdire des manifestations vous inquiète ?
M'inquiète sous prétexte que la voie publique permet aux citoyens lambda de pouvoir manifester pour un problème de salaire, pour un problème d'autre chose, qui, j'ai l'impression, dans ce genre de boîte, on va mettre tout. Et c'est ça qui me. Alors, la double nationalité.
Mais excusez-moi, juste pour continuer sur l'état d'urgence, c'est grave de ne pas pouvoir manifester pendant 3 mois?
Oui. Oui, pourquoi? Et moi, j'ai été plusieurs fois à Place de la République. Il y a un élan, il y a une discussion, il y a une recherche de compréhension. Demain, on va dire non, il faut pas se rassembler pendant 3 mois, pendant ça. Quel rapport que ça a? Moi, à mon avis, cet aspect de manifestation, il faut qu'il reste de droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais ajouter.
Vous vouliez parler, je crois, de la déchéance de la nationalité, et je vous ai coupé la parole.
La déchéance de la nationalité. La plupart des doubles nationalités sont des natifs de français. Ça veut dire on les rend apatrides.
Il est hors de question pour le président Hollande de les rendre apatrides. Seront concernés par cette mesure les binationaux, évidemment, puisque l'apatridie, vous le savez, est interdite par les Nations Unies, et la France a d'ailleurs ratifié des conventions allant dans ce sens.
J'entends bien, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je me pose, si vous voulez, une question fondamentale qui est à poser, que normalement on devrait se poser. Est-ce qu'il n'est pas encore temps, est-ce que ce n'est pas l'heure un peu d'analyser et de réviser totalement notre concept, une autre vision vis-à-vis de l'Orient? Est-ce qu'il n'y a pas assez de guerre? Il y a des milliers de morts, on voit la conséquence des réfugiés, des demandes politiques. Est-ce qu'il y a toujours cet aspect de supériorité et de guerre qu'on fait? C'est pas ça pour le peuple, c'est pas synonyme de paix. Le peuple de France veut vivre en paix, et pour qu'il vive en paix, que ses dirigeants se posent quand même la vraie question. Pourquoi on va faire la guerre? Il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye, il y a eu des tas de choses. Ils ont continué sur cette lancée, cette vision.
Et l'intervention de la coalition internationale et des Russes de leur côté, et donc également de la France en Syrie, en visant des cibles de l'organisation de l'État islamique, cette intervention-là ne vous semble pas justifiée aujourd'hui?
Juan, on a l'objectif d'éradiquer Daesh. On a eu l'objectif d'éradiquer Ben Laden. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Quelle naissance? Supposons qu'on va éradiquer Daesh. Il y a des métastases. Vous avez après des dizaines d'autres personnes qui vont se proclamer de Ben Laden, de Daesh, de je ne sais quoi. Il faut quand même repenser autrement cette pensée cette façon de voir les choses quand même.
Céline, vous avez eu le temps de vous exprimer. Je vous interromps. Merci de nous avoir appelé. D'autres réactions, et elles sont nombreuses au standard. Nous accueillons Séverin d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Séverin.
Bonjour Juan Gomez.
Vous avez été choqué par l'attitude des députés français mardi qui ont chahuté le gouvernement et notamment le Premier ministre.
C'était totalement ahurissant le mardi de suivre en direct des hommes politiques français qui se tripaient de la sorte, comme si on était dans une situation normale où tout allait bien en France. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin ces hommes politiques français? Ils ne peuvent pas pour un instant réaliser l'union sacrée autour de la France, sortir la France de cette situation et reprendre leurs dégâts habituels? Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Nous ne sommes pas dans une situation normale. Il y a des terroristes qui se promènent partout. Il y a encore des blessés qui sont dans les hôpitaux. Et pendant ce temps, on se bat, on se chamaille comme si tout allait bien.
Ouais, les familles n'ont pas encore fait leur deuil que la politique a repris ses droits. Certains y voient évidemment l'échéance électorale prochaine, hein, les élections régionales. Merci Séverin de nous avoir appelé d'Abidjan. Anémone, bonjour.
Rouen, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors bien évidemment, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous avons vécu à Paris le week-end passé. Par ailleurs, je voulais aussi saluer l'intervention humaniste de Selim qui est intervenue il y a quelques instants. Rouen, je pense qu'il faut faire deux lectures de ce qui se passe actuellement. Une lecture au niveau national avec les mesures prises par le président de la République qu'il faut saluer. Il faut saluer le courage de notre président, mais on se demande pourquoi ces mesures ont été prises tardivement.
Alors, vous rejoignez, et permettez-moi de vous comparer à lui, vous rejoignez donc Nicolas Sarkozy, qui regrette que effectivement le gouvernement n'ait pas pris suffisamment de mesures depuis les attentats contre Charlie Hebdo au début de l'année.
Alors, je ne sais pas si la comparaison avec Sarkozy peut être discutée, mais en tant que citoyenne, au lendemain des attentats de Charlie, il aurait fallu plus de fermeté, beaucoup plus de fermeté. Mais saluons quand même l'attitude du président de la République, François Hollande. Voilà. Ensuite, la lecture au niveau international. Juan, le président a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de pouvoir voter une résolution. D'accord? Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment marquer une volonté, non seulement au niveau militaire, donc plus de renforcement militairement, mais aussi au niveau politique et au niveau économique.
Mais quand vous dites un renforcement militaire, qu'entendez-vous par là? Il faut que la France s'engage davantage en Syrie?
La France est déjà engagée, mais la France ne peut pas être engagée seule. Il faut une...
Mais elle n'est pas seule, elle est au sein d'une coalition à laquelle pour l'instant n'appartient pas la Russie. L'idée de François Hollande, c'est de créer une seule et unique coalition internationale.
On est d'accord, Juan, mais je veux dire, l'implication de la Russie pour la question syrienne et la question de Daesh, oui, mais également une réponse beaucoup plus globale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Daesh, mais il faut aussi parler de Boko Haram, il faut aussi parler des Shebab, il faut aussi parler du Pakistan, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on va régler la question de Daesh en impliquant la Russie, etc., mais il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Sinon, Juan, croyez-moi, nous n'avons pas fini de pleurer nos morts, aussi bien aux quatre coins du monde, aussi bien que dans les grandes capitales des métropoles occidentales.
Merci à Lemon de nous avoir appelé. Bonjour Paulin.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je tiens d'abord dans un premier temps à saluer nos forces de l'ordre qui, en un temps record, ils ont pu réussir à mettre la main sur certains individus.
Faites référence aux nombreuses interpellations et notamment à l'assaut d'hier à Saint-Denis.
Oui, justement. Et puis, je voulais aussi, dans un premier temps, mon intervention aura deux ou trois volets.
Eh bien, allez-y déjà sur le premier, puisqu'il nous reste à peine 1 minute 30. Hein.
D'accord. Mais bon, moi, je voulais justement, je m'inscris en faux contre ce que dit Sarkozy, parce que si aujourd'hui nous sommes à ce stade, la politique étrangère de Sarkozy, pendant son mandat, n'a pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel a hérité d'une politique pourrie de Sarkozy.
C'est-à-dire, développer, parce que là, vous développez.
Nous sommes dans une situation aussi difficile aujourd'hui. On a besoin d'être unis.
Oui, mais excusez-moi, vous portez des accusations à l'encontre de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy. Vous dites situation pourrie qu'il nous a laissée. Vous faites référence à quoi exactement?
Justement, à son intervention, par exemple, je vais être clair.
Allez-y.
À son intervention en Libye, il a été jeter des bombes là-bas, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la Libye, en matière d'immigration, a été un endroit stratégique qui compterait qui compterait tant bien que mal l'immigration.
Oui, enfin là on n'est pas dans l'immigration, on est dans le terrorisme. Et puisque vous parlez de la Libye, c'est intéressant de le signaler. Le